Bonjour Kaline, bonjour Guigui Gaming, bonjour William, bonjour Eli, bonjour The Petit Poney 70, tu as un très joli pseudo, bonjour à toi, bonjour à vous tous, désolé, salut Nulmage D, salut Florian B, voilà, bonjour à tous, je disais donc que nous étions lundi et non pas dimanche, tout simplement parce que hier je me suis littéralement effondré sur mon lit, j'étais à Paris pour Shadow, voilà, et en fait on a fait deux soirées d'affilée qui ont fini très très tard, et donc j'étais dans le coma toute la journée en rentrant dimanche. Donc, on va attaquer sur les rubriques, la rubrique des news, hein, parce que c'est un petit peu pour ça que vous regardez cette émission. Et beaucoup, beaucoup de news à présenter dans cette émission. Alors voilà, le podcast c'est ça, c'est encore.fm/guillaume/, si vous voulez aller écouter les émissions en replay, j'en ai pas parlé il y a 10 minutes, donc voilà. Ok. Donc tout d'abord, vous n'avez pas pu louper cette news si vous suivez un petit peu les actualités. Microsoft qui rachète GitHub. Alors GitHub, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément? Excusez-moi, je parle beaucoup donc il faut un petit peu hydrater tout ça. Microsoft rachète donc GitHub. GitHub, qu'est-ce que c'est? GitHub, c'est quand même important d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les développeurs ici connaissent très bien. Par contre, tous ceux qui ne développent pas forcément de projets ne connaîtront pas. Donc GitHub, c'est un service d'hébergement de projets de programmation. On pourrait dire ça comme ça. En gros, c'est un site web sur lequel les développeurs peuvent mettre le code de leur logiciel libre. En fait, ils peuvent le publier et les gens peuvent le voir, le modifier, proposer des changements et tout ça. Donc c'est un site qui est super puissant. Et ce site a été racheté par Microsoft. Alors pourquoi ça a créé un petit shitstorm et tout ça, donc ça a été racheté déjà pour 7,5 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et en fait, pourquoi Microsoft rachète ça? C'est parce que c'est le plus gros site de projets hébergés comme ça, de projets open source. Donc pour Microsoft, c'est super intéressant d'avoir ce site-là sous la main et de pouvoir aussi l'intégrer à ses solutions de développement. Donc ils sont pas fous, hein. Microsoft en ce moment, ils sont vraiment dans une stratégie de se focaliser sur les développeurs, sur le développement de logiciels. Ça se voit, hein, sur leur philosophie récente. Ils ont fait beaucoup de projets open source, ils ont fait beaucoup de choses pour les développeurs, Visual Studio, ce genre de choses. Bon bref, donc ils sont dans cette philosophie-là d'aider au maximum les développeurs. Mais pourquoi ça crée toute une polémique? C'est parce que Microsoft fait partie de ces fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, de ces grosses entreprises qui continuent de grignoter un peu partout, de répandre leurs tentacules sur tous les projets, et beaucoup de défenseurs du libre et tout ça, et pas forcément, ils n'ont pas forcément tort du tout, s'inquiètent que Microsoft, voilà, ait la main sur autant de projets open source et sur autant de choses comme ça. Donc voilà, il y a cette news que je trouvais super importante. Alors attendez, je lis un petit peu. Invasion de fonctionnalités OneNote et Teams. J'aime pas GitHub, je préfère garder mon code pour moi au lieu qu'on me le vole publiquement. Ah, attends, Jade Salina, alors, il faut bien comprendre que si tu n'as pas envie qu'on te vole ton code, tu n'es pas concerné. Hein, dans le sens où, si tu veux, GitHub est fait pour des projets open source, où justement le but est de partager le code. C'est pas du tout la même philosophie. Si toi, tu n'es pas intéressé pour qu'on te reprenne ton code, c'est ton code est privé, et c'est pas quelque chose de mal. Hein, plein de trucs fonctionnent comme ça aujourd'hui. Mais tu peux pas dire que t'aimes pas GitHub à cause de ça. GitHub, en plus, je suis sûr que si tu développes, tu utilises des projets qui sont très certainement sur GitHub. Donc GitHub n'est pas fait pour des choses privées, bien au contraire, c'est totalement aux antipodes de cette philosophie. Yo Metasploday, comment vas-tu? Bonjour à tous. Et d'ailleurs, pensez au petit pouce bleu sur le stream. Ça permet des fois de le faire monter en tendance, c'est plutôt cool. Tu peux publier ton code en privé si tu payes le premium. Ok, je ne savais pas. Moi, j'ai vraiment utilisé ça en tant que développeur. Je ne savais pas qu'il y avait, la possibilité de publier son code en privé. Tu peux faire un dépôt privé. Ok, bon, ouais, vous êtes plusieurs à me l'apprendre. Je ne savais pas du tout. Des projets open source de la part de Microsoft, mort de rire, c'est ironique, j'espère. Alors non, détrompe-toi, Skynet. Microsoft a une grosse philosophie de l'open source en ce moment. Tu serais très étonné. Par exemple, Microsoft développe et maintient à jour un langage qui s'appelle... enfin, sur langage, qui s'appelle TypeScript, et qui est très très populaire. C'est un langage vraiment pas mal du tout pour faire du développement web. C'est une surcouche à JavaScript. Et ça fait partie des projets open source qui sont vraiment vraiment maintenus par Microsoft, et qui sont bien maintenus par Microsoft. Donc non, ils investissent beaucoup dans l'open source, parce qu'ils savent que déjà ça leur fait une belle image. C'est de la com institutionnelle, clairement. Et aussi parce que, pour partager des projets, pour pouvoir aussi ramener des développeurs sur leurs solutions. Enfin, ils sont pas cons. TypeScript est très bien intégré sur Visual Studio, par exemple. PowerShell est aussi open source, exactement. Donc oui, non, il faut pas croire. Hein, il y a toutes les entreprises aujourd'hui ont de grands intérêts à rendre des solutions open source, clairement. Rien que pour l'image déjà. On va passer à la deuxième news. Alors, juste, j'ai pas précisé, je l'avais noté, je l'ai sauté dans mes notes. On parlera pas d'iOS 12 dans ce stream, vu que j'ai fait une émission dédiée à ça, que je vous invite à voir sur le podcast, à réécouter sur le podcast. Voilà, avec tout le récap de ce qui a été annoncé sur la WWDC d'Apple. Donc on reparlera pas de tout ce qui est Apple dans ce stream là, dans ce slash du 11 juin. Microsoft n'a pas une philosophie open source, juste un business. Oui, non, mais quand je dis philosophie, attends, mais tu as compris, tu joues sur les mots. Mais oui, non, Microsoft n'est pas un enfant de cœur, ça reste une entreprise privée qui veut faire de la thune. On est bien d'accord là-dessus. Mais ils ont de plus en plus mis de l'open source au cœur de leur stratégie. Voilà, c'est comme ça que je pourrais le dire. Effectivement, c'est encore une fois, c'est pas de bon cœur. Enfin, il y a des gens très bien chez Microsoft, c'est sûr, mais le but final de l'entreprise et des businessmen là-bas, c'est de faire de la thune. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, je ne suis pas en train de glorifier Microsoft, bien au contraire. On va passer donc à la deuxième news, comme je vous l'ai dit. Et cette deuxième news, c'est un nouveau téléphone de chez Asus auquel je ne crois pas beaucoup, mais on verra. Des fois, je pourrais être complètement étonné. Donc, au Computex 2018, il y a un nouveau téléphone qui a été annoncé. C'est le ROG Phone, donc Republic of Gamers, la fameuse marque de Asus. Et donc, ce téléphone, il a quelques particularités que je trouvais intéressantes à vous présenter aujourd'hui. Et ces particularités, je déteste les sites qui se relancent. 01net, vous faites souvent des bons articles, mais arrêtez de relancer automatiquement vos sites, c'est insupportable. Donc ce téléphone a quelques petites particularités intéressantes. Tout d'abord, son écran sera un écran 90 Hz, un petit peu à l'instar de ce que faisait le Razer Phone, sauf que le Razer Phone, il avait un écran 120 Hz, mais en gros avec des fréquences de rafraîchissement un petit peu plus élevées. Donc ça permet d'avoir une sorte de fluidité plus présente sur les écrans. Ça se voit. Moi, pour avoir vu et pris en main un Razer Phone, ça se voit quand c'est du 120 Hz, c'est super agréable. Donc il y a cet écran 90 Hz sur le Asus ROG Phone. Il y aura également, bon évidemment, les specs sont bien mastoc, hein, on est sur des spécifications assez vénères avec du Snapdragon 845, overclocké, 8Go de RAM, bon voilà, donc on bourrine sur les spécifications, donc ça, il n'y aura pas de souci. Il y aura deux boutons tactiles également sur le téléphone, en gros des gâchettes, il y aura des gâchettes sur le téléphone, compatibles avec plein d'émulateurs, de jeux, de choses comme ça. Il y aura également deux ports USB-C, je trouve que enfin quelqu'un ose faire ça sur un téléphone, je trouve que c'est vraiment malin, ça règle totalement le problème de, par exemple, de la prise jack, ça ne le règle pas totalement, mais ça le règle en partie dans le sens où ça permet de brancher plusieurs choses au téléphone et notamment un chargeur et des écouteurs. Donc je trouve ça très très cool. Voilà, je pense qu'il vient directement concurrencer le Razer Phone, bien sûr Arnaud, ouais, totalement, totalement, totalement. Donc voilà, deux ports USB type C, je trouve ça très, 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 très cool. Il y aura également il y aura une sorte d'extension, voilà, un petit ventilateur, probablement d'ailleurs ventilateur-radiateur, hein, ventirad, qui sera clipsable à l'arrière du téléphone. Alors, je vais donner un avis totalement personnel, je trouve que c'est un mauvais design, 100%, dans le sens où si on doit en arriver à mettre un petit ventilateur à l'arrière du téléphone, voilà, bon, je trouve que c'est pas un design rassurant, quoi. Je veux bien entendre le fait que ça soit un téléphone qui soit destiné à des joueurs, mais devoir mettre une extension pour le refroidir, bon, à voir, je sais pas. Est-ce que vraiment avoir une telle puissance dans un téléphone comme ça? Je continue de penser que des solutions dans le cloud risquent d'être l'avenir, donc que c'est un peu un projet mort-né. Bon, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis pas fan de rajouter un truc comme ça pour refroidir le téléphone. Je trouve que c'est un mauvais design. Enfin, j'accroche pas du tout. Également, les autres accessoires. La batterie est assez vénère, QJK marchand. La batterie fait 4000 mAh, donc c'est pas trop trop mal. Au niveau des autres accessoires qu'il y a, il y a un dock qui fait très penser à une Nintendo DS, donc en fait il y a un écran tactile sur le dock et vous mettez le téléphone dans le dock et en gros ça fait une sorte de Nintendo DS avec deux écrans. Bon, pourquoi pas, pas très convaincu non plus. Il y aura également un dock PC comme le faisait par exemple, un petit peu comme le faisait Samsung avec... Alors j'ai plus le nom en tête de leur dock, mais voilà, Samsung faisait un petit peu la, la même chose. Et enfin, il y aura une manette comme celle de la Switch, voilà. Mais en fait, ce que, j'ai un peu de mal avec ce genre de smartphone parce que c'est tellement de niche, les gens qui ont besoin d'avoir une telle puissance dans leur téléphone et qui jouent vraiment à ce point-là, j'ai du mal à... Je sais pas, moi je, après je joue très très peu sur mon téléphone donc c'est pas pour moi. Ouais, Samsung Dex, merci The Gold Killer. Ouais, non, je suis pas convaincu. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. En attendant, je vais manger un petit Kit Kat, vu que le stream va être un petit peu long quand même. Clairement, je trouve que Shadow ou même Steam Link en bêta sont plus optis si on veut vraiment jouer sur smartphone. Bah ouais, je vois difficilement ce genre de solution à sortir dans un. Genre dans un bus par exemple, quoi. Non. Tu vas pas sortir une manette comme ça, genre tu sors dans ton bus. Alors, clac, machin. Alors, encore vous allez me dire, il y a la Nintendo Switch. Mais, au moins sur la Nintendo Switch, je trouve qu'il y a vraiment des jeux qui sont adaptés à la console. Et qui ont été pensés pour la console, pour cette jouabilité-là. Là, je trouve qu'on rajoute... Bon, enfin, si, pourquoi pas, mais... Je sais pas. Moi, j'en vois pas du tout l'intérêt de faire un phone gaming, autant faire une console, mais encore une fois, personne... va s'amuser à jouer à GTA sur un tel, au pire tu utilises ton tel pour tout. Ouais, je sais pas. Bah, ouais, je suis pas forcément très convaincu par tout ça. Le but d'un smartphone, c'est d'être tout en un, pas 1000 accessoires. Pas 10 000 accessoires. Ouais, il y a aussi ce côté-là. C'est que les gens se trimballent pas avec des accessoires. T'as envie d'avoir tout dans un téléphone, quoi. C'est gamer, mais c'est tellement moche. Ton live est super avec le Battle Deadpool versus Boba Fett de Epic et la musique de fond. Ah non, c'est pas du tout cette musique-là. Ou alors, si c'est cette musique-là, c'est totalement une coïncidence, Dark Flamby. PTDR, le Razer Phone. Le fait de retirer la prise jack était censé inciter les constructeurs à passer au sans fil. Je comprends pas du coup l'utilité de mettre deux ports USB-C. Bah, en fait, les ports USB-C étaient surtout faits là pour les accessoires et tout ça, Arnaud. Mais moi, je trouve que ça a un gros avantage d'avoir deux ports USB-C. En fait, ça devient un mini ordinateur portable, je trouve. Rien que pour ça, je trouve ça très sympa. Tu peux enfin brancher une clé USB et ton chargeur, tu vois. Enfin, je trouve ça cool. Bon, ouais, vous n'êtes pas forcément convaincu. Ok, très bien. Bon, comme moi. Voilà. On va passer à la news suivante. Une news qui fait un petit peu froid dans le dos. Facebook a livré les données de ses utilisateurs aux plus grands fabricants de smartphones, et ceci depuis plusieurs années. Alors je vais vous expliquer un petit peu, parce que, voilà, c'est pas... c'est bon, il y a un petit peu de nuances, mais quand même, c'est assez craignos, hein. Donc en gros, il y a à peu près 60 constructeurs qui ont reçu des données de Facebook, ou plutôt Facebook a donné à 60 constructeurs des accès directs à ses serveurs et à des données utilisateurs. Et en fait, notamment, donc c'est ce que explique un journaliste du New York Times, il a connecté son compte Facebook depuis l'application de BlackBerry, hein, le hub de BlackBerry du Z10. Bon, je connaissais pas du tout ce téléphone. Et en fait, il a analysé les requêtes, sûrement avec un truc genre Wireshark ou ce genre de choses. Il a analysé les requêtes qui étaient faites entre son appareil et les serveurs de Facebook. Et en fait, ce qu'il s'est aperçu, tout simplement, que son téléphone ne réclamait pas uniquement ses infos personnelles à lui, ce qui serait logique. En même temps, si tu utilises Facebook, tu plus ou moins consens à ce qu'ils utilisent une partie de tes données perso. Mais surtout, il envoie enfin, il y a un échange de données et il y a aussi les données de ses amis. Voilà, et non pas que de lui, enfin, non pas que de l'utilisateur. Donc ça veut dire que si vous utilisez ce genre d'application, ce genre de hub et tout ça, ça envoie au constructeur les informations sur les amis. Voilà, très certainement pour récupérer les contacts, les numéros de téléphone, ce genre de choses. Mais sans que vous ayez consenti et sans que ça soit clairement expliqué. C'est ça le problème. Et notamment, en plus, il y a des infos très personnelles, genre les identifiants, les dates de naissance, les lieux de travail, ce qui est quand même, voilà, pas mal. Les centres d'intérêt, etc. C'est quand même beaucoup d'informations personnelles qui sont envoyées à tous les constructeurs, je le répète, hein. Et après, surtout, l'autre problème, c'est que ça récupère des informations sur les amis des amis. Et vous savez très bien que l'ami d'un ami... On peut choper très potentiellement avec un seul compte, avec votre propre compte, si on fait les amis des amis, on peut très certainement choper au moins 20 000 ou 30 000 personnes d'un coup. Parce qu'en fait, avoir deux relations, c'est énorme. Imaginez, vous avez genre, je sais pas, on va dire, vous avez 50 amis, donc ça fait une première relation. Sauf que chacun de ces 50 amis a 50 amis. Donc en fait, ça fait 50 x 50, ce qui est énorme. Voilà. Donc potentiellement, voilà. Donc ça fait énormément de personnes d'un coup. Et au total, donc, c'est les données de 300 000 personnes qui ont été transférées. Donc, est-ce que donc c'est pas un bug, hein, évidemment. Voilà, donc ça fait énormément de données qui vont être pas très RGPD tout ça. Ouais, alors c'est en place ça depuis déjà plusieurs années. Hein, c'est ce que j'avais lu dans l'article. Alors, attendez, je ne retrouve pas cet endroit. Je crois que c'est ça depuis un décret de 2000. Non, c'était pas là. J'avais lu quelque part. C'était peut-être pas sur cet article. Alors que c'était ah oui, voilà, depuis les débuts de l'ère mobile. Hein. Voilà, donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme, énorme. De toute façon, Facebook s'en dépourrit, c'est pas parce que Zuckerberg s'est excusé. Non, mais après, Zuckerberg, il a fait de la com, hein. Il s'est excusé parce que ça faisait bien de s'excuser. Vraiment, Facebook sont dans une posture. Ils ont tiré la corde, hein, le plus possible. Et puis là, bah, les gens commencent un petit peu à se rendre compte de ça, quoi. C'est quoi le délire du FBI? On va en parler juste après, Nekotiki. Mon proco est maintenant à 85 degrés. Très bien, c'est Dark Flambie. Il ne faut pas utiliser Facebook. Oui, clairement, je vous déconseille fortement si vous en avez la possibilité d'utiliser Facebook. Hein, si vous pouvez dégager ce réseau social, votre vie privée s'en trouvera bien améliorée. Voilà, donc très certainement. Bon, c'est une histoire qui continue de faire froid dans le dos, de savoir que des entreprises, des constructeurs de smartphones, tous les constructeurs de smartphones ne sont pas forcément clean sur les données utilisées et que tous ces constructeurs aient pu récupérer vos infos et celles de vos amis et celles des amis de vos amis. Voilà, c'est pas énorme. C'est pas vraiment génial, génial. Ok. On va maintenant passer à une petite news très très impressionnante. Il y a une petite vidéo Twitter qu'il faut que je vous montre parce que j'ai trouvé ça voilà, assez ouf. Ça sera une brève, hein, cette news, je vais pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus. En fait, vous savez que donc Apple a release son truc de réalité augmentée, a publié son truc de réalité augmentée, son kit de développeur qui s'appelle ARKit 2.0. Et en fait, il s'est rendu compte que ce kit et tout ce qui était possible dans ce kit de développement, tout ce qui était mis à la disposition des développeurs permettait de traquer les yeux des utilisateurs et notamment d'effectuer des actions uniquement avec les yeux et aussi en clignant des yeux. Et donc ça donne ça sur donc c'est sa vidéo qui a fait en plus enfin voilà 307 000 vues, donc ça a été beaucoup partagé. Vous avez dû certainement tomber dessus. Et en fait, uniquement avec Face ID et la direction que prenaient ses yeux, il arrive à effectuer naviguer dans une interface, ce qui est vraiment impressionnant. Donc je vous laisse un petit peu avec la démo et c'est assez ouf. Donc là, il a juste coupé sa caméra en fond. Mais on peut voir que, globalement, le curseur tremble pas à un point délirant. Et ça permet de vraiment naviguer dans une interface sans que ça soit compliqué, complexe. Parce que c'est ça. Évidemment, on peut trouver des utilisations où ça tremblerait énormément. Et ça, à mon avis, ça a déjà dû être fait. Mais là, ce qui est impressionnant, je trouve, dans ça, c'est que ça semble facile. Et apparemment, c'est ce qu'il dit. C'est que c'est assez facile à faire. Donc, c'est ça que je trouve assez ouf. Bon appétit Metasploday. Je trouve l'intérêt limité. Moi je trouve pas, Amaury. Je trouve que ça peut être une nouvelle façon de communiquer avec des interfaces. Évidemment que les interfaces qu'on a aujourd'hui, c'est plus facile avec le doigt. Mais déjà on peut penser aux personnes qui seraient handicapées et qui n'auraient pas forcément accès à leurs mains pour naviguer dans des interfaces. Donc clairement ça peut être une excellente solution pour ces personnes-là. Et puis au-delà de ça, on peut très bien imaginer une interface où on contrôle une partie de l'interface avec les yeux et une partie de l'interface avec le doigt. Notamment par exemple une photo, on pourrait très bien imaginer que si on bouge l'œil, ça décale un peu dans la photo. Enfin tu vois, il y a plein de choses qui sont imaginables. Ils ont fait tout un boucan quand ils ont fait Ok. Le problème c'est que tu dois te retenir de cligner des yeux. Non mais voilà, c'est pour ça que je pense que le système de cliquer en clignant des yeux n'est pas pertinent. Mais par contre, le simple fait que regarder et ton regard influe sur l'interface, déjà rien que ça peut être intéressant. Je dis pas que ça peut être ça va pas être implémenté comme ça, mais ça peut être intéressant à exploiter. Rien ne vaut ce bon vieux Nokia 3310, le fameux. Jojo avait fait une vidéo comme ça sur Android, mais évidemment que cela présage des lunettes connectées. Par exemple. Eh bien, bon appétit à toi, Vince G. Et bon appétit à tous ceux qui mangent devant le stream. Voilà, j'espère que vous vous enjaillez fortement. Voilà. Bon, on va passer à la news suivante. Et on va passer donc à la fameuse news qui est dans le titre de ce stream. Apple qui teste à nouveau une fonction anti-FBI, enfin qui qui teste pas à nouveau une fonction anti-FBI, mais il y avait déjà eu des news qui en parlaient, et là qui enfin implémente une fonction anti-FBI. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous savez que Apple et le FBI, c'est pas une histoire d'amour, dans le sens où le FBI a déjà demandé à plusieurs reprises à Apple de déverrouiller et débloquer, enfin même de forcer le déverrouillage de smartphones, ce à quoi Apple a dit lol, nope, et le FBI s'en est allé chercher des entreprises qui s'appellent donc, j'ai pris des notes, qui s'appellent donc Celebrite et Grey Key, ou des entreprises, des logiciels, des solutions qui permettent de forcer des iPhones. Voilà, donc le FBI utilise ce genre de solution et beaucoup d'agences gouvernementales utilisent ce genre de solution. Évidemment, solution qui ne respecte pas tout ce qui est lié à la vie privée des utilisateurs. Bref. Et en fait, Apple est en train de tester une fonction qui a été mise en place sur la bêta d'iOS 12 qui s'appelle USB Accessories, et en fait, USB Restricted Mode, mais dans le menu elle s'appelle USB Accessories, et en fait ça fonctionne très très simplement, c'est que si vous n'avez pas déverrouillé votre téléphone au bout d'une heure, la fonction USB est complètement coupée. Voilà, donc si vous déverrouillez pas votre smartphone et que vous le branchez en USB, il se passera rien du tout. Et en fait, tous les contacts et tout, rien ne se passera. Et en fait, l'intérêt de cette fonction, c'est que ces solutions-là, comme Celebrite et Grey Key, ces fonctions-là ne fonctionnent uniquement qu'en branchant le smartphone avec le port USB. Voilà, en fait, c'est une sorte de boîtier, vous branchez le smartphone, ça fait blablabla et ça déverrouille le téléphone. Un peu plus compliqué dans les détails, mais c'est ça l'idée. Voilà, et en fait, si la fonction USB est totalement coupée, ça ne fonctionnera plus, vous l'aurez deviné. Donc moi, je trouve personnellement, évidemment, j'essaie toujours de parler un petit peu de vie privée, et je suis sensible à ces questions-là, je trouve que c'est une très très bonne solution, parce que ça va permettre d'éviter que n'importe qui puisse... Parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, c'est que, évidemment que c'est embêtant si y a du terrorisme et que les entités gouvernementales ne peuvent pas vérifier un smartphone. Mais le problème, enfin, ne peuvent pas déverrouiller un smartphone. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est... Rien n'empêche qu'une personne mal intentionnée, qui ne soit pas une agence gouvernementale, mette la main sur ces solutions-là. Et le problème, c'est que ça permettrait donc, entre guillemets, à n'importe qui, de déverrouiller votre smartphone, et des personnes qui pourraient être mal intentionnées. C'est, en gros, laisser une faille dans des téléphones est dangereux, de base. Laisser une faille dans un système informatique est dangereux. Parce que, effectivement, si c'est des agences gouvernementales, on pourrait se dire que c'est l'État, que voilà, bon, pourquoi pas. Mais si cette technologie-là arrive entre de mauvaises mains, et c'est déjà arrivé, il y a d'autres exemples que j'ai pas en tête là, mais c'est déjà arrivé, ça peut être un énorme bordel. Faudrait que je vous retrouve des exemples, parce qu'il y a des exemples où justement des sites ont fait exprès de laisser des failles qui pourraient être exploitées par des gouvernements et tout ça, et en fait ça s'est retrouvé dans la nature. Et donc c'était pas forcément très très Charlie, voilà. Cette nouvelle fonctionnalité n'est pas vraiment utile puisque les entreprises comme Celebrite ont des exploits plus bas niveau permettant de désactiver la fonction au démarrage. Ben oui et non, parce que disons que ça peut permettre déjà de retarder, et puis ça peut... Enfin après je connais pas le détail, si tu me dis ça peut-être que tu as raison Mathieu, hein, j'en sais rien. Mais déjà ça peut empêcher... Normalement ça désactive vraiment à 100%, même si tu redémarres l'iPhone, j'imagine bien qu'Apple ils ont fait en sorte que ça continue de bloquer l'USB. Sinon ça me paraît très 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 con quand même. Donc voilà. Puis bon, après je vous dis que l'État peut être bien intentionné, mais... Force est de constater qu'il y a beaucoup de pays où l'État n'est pas forcément bien intentionné. Voilà. Apple font quand même pas mal de choses pour protéger la vie privée. Oui, je le dis beaucoup. Voilà, autant Apple, ça fait partie des grosses entreprises, leur but, c'est de faire de la thune. Voilà, il faut toujours garder ça en tête, c'est très important. Mais autant, ça fait partie des entreprises qui au moins essayent de respecter un petit peu plus la vie privée. Ah bah oui, WannaCry, tu as totalement raison, merci pour le... Oui, il y a plusieurs, vous avez dit WannaCry, je crois. Effectivement, tout l'épisode autour de WannaCry, MiCode en a fait une vidéo que je vous invite à regarder. Cette faille-là, qui a pourri des systèmes hospitaliers quand même, enfin c'est allé très très loin, hein, WannaCry, était une faille qui a été laissée exprès dans le système d'exploitation. Et, oh, mais quelqu'un l'a utilisé à des fins malicieuses, incroyable. Pourtant, ce n'était que pour les gouvernements, lol. Voilà, bon, vous voyez, merci pour l'exemple parce que c'est exactement... Je savais qu'il y avait un exemple qui était gros, mais je l'avais plus du tout en tête. Voilà, donc effectivement, WannaCry est un exemple parfait que laisser une faille de sécurité exprès dans un téléphone pour des agences gouvernementales, c'est de la merde. Voilà, parce que ça peut toujours tomber entre de mauvaises mains. Même si j'ai rien à me reprocher, je veux pas que l'État fouille dans mon téléphone. Bah oui, bah, tout simplement parce que t'as envie que tu aies ta vie privée. Voilà, tout simplement. Moi, en fait, je pars du principe que ce qui me gêne encore plus, c'est le fait qu'ils stockent des données sur toi. C'est-à-dire qu'ils prennent ton téléphone et qu'ils enregistrent toutes les données. Parce qu'autant, bon, si t'as la police qui, bon, voilà, pour une raison X ou Y, demande à ce que tu... Bon, même s'il y a le droit au silence et tout ça, mais on va dire s'il y a un procès qui dure longtemps et que tu dois montrer des choses. Bon, si la police te demande de le faire avec elle et que tu montres ton téléphone et tout ça avec elle, mais qu'elle n'enregistre pas ces informations-là, à moins, enfin, elle pourrait noter des choses pour dans le cadre du procès, tu vois, mais qu'elle n'enregistre pas de façon 100% dans des disques durs, bon, pourquoi pas. Mais si là, ce qui se passe souvent sur des agences gouvernementales, c'est que, par exemple, aux États-Unis, aux aéroports dans les États-Unis, c'est qu'ils prennent votre téléphone, ils aspirent tout et ils vous le rendent. Et le problème, c'est qu'ils aspirent tout, même des choses qui sont intimes, qui font partie de la vie privée. Par exemple, je sais pas, des photos intimes avec votre chérie ou des choses comme ça. Bah, vous n'avez pas forcément envie que les États-Unis le stockent indéfiniment. Voilà, parce que ça pourrait très bien tomber entre de mauvaises mains, et ça pourrait très bien tomber entre les mains d'un connard dans le gouvernement qui utilise ces trucs à des fins un peu crades, on n'en sait rien, voilà. Dans tous les cas, on en revient toujours au problème de terrorisme et tout ça, parce que c'est un argument qui est beaucoup utilisé, bon bref. Oui, alors voilà, en fait, ce genre de mesure, bien sûr, n'empêche pas à 100% ces agences-là de regarder ce qui se passe dans votre iPhone, mais disons que ça le ralentit énormément. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que je trouvais ça aussi très très intéressant. Ça va beaucoup causer de tort à ces agences-là. Et encore une fois, pour tout ce qui est de lutte contre le terrorisme et ce genre de choses, il a été prouvé des centaines et des centaines de fois que ce qui fait la différence sur ces affaires-là, c'est l'enquête sur le terrain. Et le travail de fond, et non pas aspirer les données utilisateurs de tout le monde. Ça ne sert à rien, ça a été prouvé. Preuve avec Obama et tout ce qui s'est passé avec les surveillances et tout ce qu'Edward Snowden a révélé. Voilà, ça ne fonctionne pas d'aspirer tout, parce qu'il y a tellement de données qu'on ne sait même plus les traiter. C'est ce qui compte et ce qui fait marcher ça, ce qui fait, ce qui fait avancer les luttes contre des gros problèmes, c'est le travail de fond. C'est pas collecter les données de tout le monde, ça sert à rien. Voilà, on va avancer sur la prochaine news, une news qui toujours est un petit peu liée à la vie privée. Bon, ça va être une brève, clairement il est 20h13, donc ça va, on est à peu près dans les temps. Donc c'est une brève, et Mozilla va s'allier avec Tor, le réseau Tor, pour lancer un mode super privé qui donc va utiliser hein, ce réseau-là. J'ai envie de vous dire que Mozilla, je suis désolé, il faut que je la fasse, Mozilla n'a pas tort de faire ça. Dab. Je suis vraiment désolé. Non, voilà, donc ça peut être intéressant à voir ce que ça va donner. Moi, je pense que ce qui peut être pas mal, c'est que ça va faire vivre un petit peu ce réseau-là qui était quand même pas forcément très, très mis en avant, qui est pourtant une bonne solution pour protéger sa vie privée. Et le principe du réseau Tor, bon, vraiment, je vais vous le résumer très rapidement, sans rentrer dans les détails techniques, tout simplement parce que moi non plus, les détails techniques, je ne les maîtrise pas. Donc, je vais pas forcément détailler quelque chose dont je n'ai pas de grande connaissance. Mais en gros, le principe général de Tor, pour vous compreniez, c'est de faire circuler votre trafic internet, voilà, à travers plein de petits relais différents, ce qui s'appelle les couches en fait. C'est pour ça que ça s'appelle oignon. Enfin, c'est pour ça qu'on parle d'oignon dans le réseau Tor. Il y a plein de différentes couches en fait, des relais qui font en sorte de rendre le pistage de votre connexion beaucoup plus difficile. Voilà, donc c'est ton jeu de mots était tordant. Yes, on fait un concours de la meilleure blague dans le chat, de la meilleure blague pour avec Tor. Voilà, donc à vos claviers, écrivez la meilleure blague, et la personne qui écrit la meilleure blague, eh bien, aura toute ma reconnaissance, et non pas un mois gratuit de Shadow. Bien vu, Jean-Michel, je te voyais derrière ton écran, mais non, tu n'auras pas un mois gratuit de Shadow en faisant une blague nulle sur Tor. Mais voilà, j'espère que vous serez tordant dans le chat. Ok, donc voilà, donc c'est une brève, hein, j'ai pas forcément passé plus de temps là-dessus, c'est pas encore mis en place et tout, donc on verra dans le futur, mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, ils ont fait un excellent jeu de mots, Android et Firefox Terminator, MDR. On avance avec la prochaine news d'un petit PC portable. T'aurais pu faire mieux, cherchez pas, vous avez tort, c'est tort d'en rire, à tort et à raison, t'as pas tort, Raptor dissident. Très très bien. Je me tords de rire, vous êtes tordu, on aurait tort de s'en priver. Quand on va sur des sites torrides, on utilise quoi? Tor. Ce live est complètement torride avec ses blagues, ça va être torride. Je me tords de rire, très très bien. D'excellentissimes blagues. Alors c'est Tor qui navigue sur Tor pour pas divulguer des infos sur Asgard, il a pas tort. Pas mal Théo, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, je voulais vous parler de ce petit, de cet ordinateur portable qu'Asus a annoncé au Computex 2018, le ZenBook Pro 15, avec un écran dans la Touch Bar. Alors, je suis très mitigé sur cette... et ils ont mis aussi également... Non, ça c'est le MacBook, pas du tout. J'étais très étonné de voir un MacBook. Donc oui, donc en fait, ils ont essayé de faire une sorte de système qui se rapproche un petit peu de la Touch Bar du MacBook, qui est en fait tout simplement un écran dans le trackpad de l'ordinateur portable. Et en gros, ça donne un truc comme ça, à peu près. Donc vous avez votre magnifique Asus ZenBook Pro 15 et vous avez ici une extension du bureau. Extension qui peut être un vrai deuxième écran avec Windows qui est affiché dessus, donc comme un vrai deuxième écran. Mais qui peut être également un truc avec des fonctions particulières, genre un lecteur de musique, un lecteur Spotify, des choses comme ça. Alors, à titre vraiment purement personnel, je ne suis pas du tout convaincu par ce genre de solution. Ça peut être intéressant pour certains usages, mais je suis vraiment pas convaincu du tout dans l'idée de remplacer cette surface par un écran. Alors après, bon, pourquoi pas ? Dans tous les cas, au pire, si on l'utilise pas, ça fait juste un simple trackpad. Et au pire, c'est pas très grave. Mais je considère qu'en fait, moi je me rends compte avec la Touch Bar du MacBook Pro qu'en fait, c'est pas naturel d'avoir l'œil qui regarde à cet endroit-là. En fait, quand on travaille sur un ordi, on regarde l'écran et on écrit avec le clavier et tout ça. Et c'est rare qu'on descende les yeux. Et en plus, faites l'expérience là maintenant quand vous regardez le stream. Essayez de rester un moment et d'avoir genre votre écran et puis de vous forcer à regarder le clavier pendant un moment, puis de re-regarder votre écran. En fait, c'est pas naturel d'avoir l'œil baissé comme ça. Vous êtes obligé de vous courber. Enfin, je trouve que c'est un emplacement qui est assez terrible en fait d'un point de vue ergonomique et surtout ergonomique au niveau physique, humain. C'est pas du tout agréable de faire ça. Et but can it run Doom? Bah oui, j'espère Kaminix. Très bonne blague. Enfin très bon même, je dirais. Donc voilà, donc vous avez plein de petites solutions. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous, moi je suis encore une fois pas très convaincu. Bon évidemment, hein, comme je vous le disais, putain le site qui se relance, c'est chiant. Comme je vous le disais, on peut l'utiliser comme un trackpad. Mais voilà, je suis pas convaincu du tout. Voilà, Tor est légal en France, oui. Tor est légal en France. Oui, j'ai déjà parlé d'Apple versus le FBI. Si vous voulez le replay de ce stream, je vais pas en reparler parce qu'on est un petit peu limité sur le temps. Vous avez mon podcast dans le replay des streams en audio dans la description. Voilà. Donc au pire, vous irez écouter juste ce moment-là en audio si vous voulez écouter cette news-là. Voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Il y a peut-être des choses à faire, hein, clairement. Je suis pas contre l'idée. Ça peut être intéressant d'avoir un flux Twitter. L'idée d'un lecteur de musique là, c'est pas mal. Mais sans plus, quoi. Je trouve que c'est pas... Déjà que la Touch Bar du Mac, c'est mitigé, mais moi, j'y ai trouvé quelques usages intéressants. Là... Bon, c'est peut-être mieux d'avoir un écran, mais cet emplacement-là, clairement, bof, quoi. Cool pour un émulateur DS, c'est pas faux, ça, Stéphane. C'est clairement pas faux du tout. Enfin, voilà, bon, c'était une brève, on va pas passer plus de temps. Autre brève très très fun, rappelez-vous, sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur la Game Boy Camera en vous faisant croire que c'était un produit neuf sorti récemment. C'était le petit prank du 1er avril. Et bien, il y a un mec un petit peu fou qui s'est amusé à fixer un objectif sur un 70-200 d'ailleurs. Très très bon objectif photo. Qui s'est amusé à fixer un objectif sur la Game Boy Camera et ça donne des photos, on va dire, très... original, marrante. Donc il a fait ça, hein, donc ça, il a dû imprimer une pièce en 3D pour que ça se colle bien et tout ça. Et ça donne des photos qui ressemblent à ça. Donc on voit que en fait, ce qui est assez fou, c'est que bon, la photo est qualité Game Boy Camera, hein, donc c'est un peu dégueulasse, mais en fait c'est marrant parce que on voit que derrière il y a le fait que il y a un gros effet bokeh en fait dû à la faible profondeur de champ de l'objectif. Donc en fait dû au fait que l'objectif il zoome beaucoup et qu'il ouvre beaucoup, il y a beaucoup de flou d'arrière-plan et il se voit ce flou d'arrière-plan. C'est assez dingue en fait de voir ça, le flou d'arrière-plan il se voit. Voilà, bon évidemment encore une fois on a une qualité grille-pain, hein, clairement, mais je trouve ça assez ouf quoi. Enfin c'est marrant que le mec il ait eu l'idée de dire tiens, je vais caler un vrai objectif sur la Game Boy Camera. Je trouve le bokeh, c'est le en photographie, le bokeh, si tu veux, c'est le flou que tu as derrière. C'est le flou, tu sais, qui fait un peu filmique, qui fait un petit peu cinématographique. Même si les réalisateurs hurleraient d'entendre ça, parce que tu peux très bien faire des choses au cinéma sans avoir un bokeh. Mais souvent, on associe un peu l'effet bokeh à un effet cinéma. Voilà, et c'est souvent ce que tu payes très cher dans les objectifs et les caméras, c'est la possibilité de jouer sur cet effet bokeh, sur cet effet de flou d'arrière-plan. Comment trouves-tu tes articles? Je les trouve avec Feedly, qui est une appli que j'avais présentée sur la chaîne et qui me permet d'avoir plein de sources. Voilà, et c'est très très cool. Autre brève, très rapidement, pour ceux qui sont intéressés par les assistants vocaux, le Amazon Echo, enfin en gros l'assistant vocal d'Amazon, l'enceinte connectée et intelligente d'Amazon, est enfin disponible en France. Enfin, les produits, l'Echo, l'Echo Dot et l'Echo Spot sont bientôt dispo en France et ils seront dispo le 13 juin. Voilà, et la précommande, c'est 50% de réduction sur le prix. Donc si vous êtes intéressé par la solution d'Amazon, eh bien n'hésitez pas. Voilà, bon, moi pour ce qui est de mon côté, j'ai totalement viré mes Google Home Mini, parce que voilà, j'essaye de me sortir un peu de l'écosystème Google, et honnêtement être écouté par Google en permanence, bon, je sais qu'ils écoutent pas vraiment en permanence, en fait ils activent l'écoute quand tu dis ok Google, désolé pour tous ceux qui ont un smartphone Android ou une enceinte, mais voilà, même en sachant ça, ça m'embête qu'ils m'écoutent en permanence. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément touchés par ça. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous avez la solution d'Amazon qui arrive très bientôt. Et on va pas terminer complètement. Si, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer cette news là en premier et on va terminer sur celle là qui est un petit peu plus propice à débat. On va essayer de rusher un petit peu parce que Léo il commence à 20h30. Donc pour autre bref, pour ceux qui sont Amazon Premium, vous avez le Amazon Prime Music qui est dispo gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller utiliser ça pour voir un petit peu ce que ça donne. S'il y en a dans le chat d'ailleurs qui savent un petit peu ce que ça donne Amazon Prime Music, moi j'ai pas du tout utilisé. Moi je suis Amazon Premium hein, donc j'ai pas encore. Donc je peux l'utiliser, mais j'ai pas encore testé du tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mieux que Spotify, Apple Music ou Deezer, est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que le catalogue est bien. J'ai pas du tout testé, donc s'il y en a dans le chat qui ont essayé, voilà, dites-moi si c'est bien. Et on va terminer sur des petites statistiques que j'ai trouvé intéressantes, donc je voulais vous en parler, je trouvais ça très 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 intéressant, très très cool. Il y a eu une petite étude qui a été faite sur le piratage en France. Et en fait, les chiffres, qu'est-ce qui en ressort? Que le streaming est devenu la technique de piratage la plus populaire en France. Alors, le panel représentatif de cette étude, ça a été 30 000 personnes. Donc, c'est pas mal du tout. 30 000 personnes, c'est plutôt cool pour avoir quelque chose de vraiment... de vraiment sérieux et représentatif. Donc... Si on passe en pourcentage hein, sur la population et tout ça, il y a 12 millions de personnes qui se sont adonnées au piratage. Ça a été créé. Bon, j'ai mes petites notes moi parce que j'ai sélectionné les trucs qui étaient importants. Il y a 12 millions de personnes en France qui se sont adonnées au piratage. Enfin, d'internautes hein, d'ailleurs, pas de personnes en France parce que un quart ça fait pas exactement ça. Donc, vu le nombre d'internautes en France, donc il y a 12 millions. C'est un quart, quasiment un quart des internautes qui ont piraté une œuvre en ligne, ce qui est très élevé, mais ce qui est pas étonnant du tout, vu que les offres sont pas encore 100% parfaites. Le jour où il y aura tout sur Netflix, on en reparle. Vous verrez que le piratage sera bien descendu. Voilà, c'est pour message pour vous, les majors. Hein, arrêtez de bloquer les trucs et les films qui sortent arrêtez de bloquer 3 ans la disponibilité des films, la chronologie des médias, mes fesses. Donc quand ça sera arrêté, ça ira beaucoup mieux. Et en 2010, pour faire un petit parallèle, en 2010, c'était 32% de la population qui piratait. 32% des internautes. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est un peu moins. Ça peut s'expliquer très certainement, peut-être parce qu'il y a plus de gens qui sont sur Internet, mais potentiellement plus de gens qui sont pas du tout dans le. Enfin, voilà, qui sont pas du tout. Qui utilisent pas Internet de façon accru comme on le fait nous, pas accru, par exemple des personnes un peu plus âgées qui n'ont pas du tout d'attrait pour le piratage et la consommation d'œuvres numériques. On peut aussi imaginer que l'amélioration d'offres comme Spotify a un peu fait baisser le pourcentage. Donc la situation s'améliore et la situation ne s'améliorera que quand les majors et autres entreprises comme ça auront compris que les gens consomment aujourd'hui la musique et les films différemment qu'avant. Voilà, les gens ne vont plus acheter un DVD à 50€ à la Fnac, à moins qu'il y ait une édition collector qui vaille le coup. Voilà, c'est le seul moment où je trouve que ça peut être très très cool. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre petite news que j'avais, enfin, comme autre petite statistique que j'avais vue? Oui, le streaming est devenu pour la première fois la technique de piratage la plus populaire dans l'Hexagone. Ça m'étonne pas parce que le streaming, au moins, bah, les gens ne se font pas attraper par Adopi, vu que ça concerne pas le streaming Adopi. Et cette technologie-là est utilisée par 7,8 millions de personnes. Avant, c'était, pas avant du tout, contre 7,1 millions pour le téléchargement direct. Donc 7,8 de gens qui regardent en streaming, 7,1 qui téléchargent en direct et 5,4 qui font du peer-to-peer. Et 1 million pour le live streaming. Voilà, bon. Je sais pas pourquoi ils mettent live streaming à part, j'en sais rien du tout. Je vois pas la différence entre streaming et live streaming. Je dois avouer que je ne sais pas du tout. Bon voilà. Et ce qui est marrant aussi, petite fact assez fun, c'est que je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2017, le site très très connu zonetéléchargement.com avait fermé et ça avait fait un gros boost du peer-to-peer en 2017, plus 32% sur le peer-to-peer. Voilà, donc c'est assez marrant de voir qu'un gros site qui ferme, ça ramène plus de monde sur une autre technologie. Voilà. Et encore une fois, ça montre aussi que fermer un site de piratage n'empêche pas les gens de pirater. Voilà. Hein. Bon. Oh, merci AliAccess pour le petit don. Ça fait plaisir. Merci de faire clignoter mes lumières. On va rusher un petit peu parce que il est 20h26 et Léo démarre son stream très bientôt. Je voulais juste, pour terminer, vous partager un petit site qui s'appelle rip.io. Donc, notez-le dans vos petits favoris. C'est un site qui est très, très pratique, qui permet tout simplement de partager, on parlait de peer-to-peer à l'instant, de partager en peer-to-peer des fichiers avec une personne. Voilà, donc c'est pas du tout un site qui est fait pour uploader des œuvres, des machins, des bidules ou télécharger illégalement ou ce genre de choses. C'est un site qui permet vraiment, vous avez quelqu'un, vous avez envie de lui partager un gros fichier, vous allez pouvoir le faire en peer-to-peer sans héberger votre fichier quelque part. Donc c'est une solution que je trouve super intéressante et qui utilise des technos un peu plus modernes du web. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ça. Rip.io, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Et également, si vous êtes intéressé par un petit VPN, si vous voulez protéger votre vie privée, vous avez NordVPN. J'avais déjà expliqué en stream que moi, c'est celui que j'utilisais, que c'était pas mal du tout. Je vais pas repartir dans les détails là parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, donc NordVPN, c'est très très bien. Et si vous l'utilisez avec mon affiliation, donc le lien dans la description est une affiliation, moi, ça m'apporte une petite somme, ce qui est plutôt intéressant du tout. Ce qui est plutôt carrément intéressant pour moi. Voilà. Et pour vous aussi, parce que c'est un VPN que j'utilise encore une fois. Je fais quasiment jamais la promotion sur ma chaîne et sur le stream de choses que je n'utilise pas. C'est un petit peu une devise que je trouve assez bien. Voilà. Bon, donc comme je vous l'ai dit, je vais pas faire un gros moment sur la lecture du chat et sur vos questions. Encore une fois, je suis désolé. Posez quelques questions si vous voulez, on va passer à ça. Je vous le rappelle, avant de terminer, plusieurs choses. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, d'abord, vous pouvez aller sur mon Twitter, aller retweeter le tweet du stream, me suivre et je vais bientôt tirer au sort là dans 2-3 minutes, je vais tirer au sort une personne qui gagnera un mois gratuit de Shadow. Voilà, donc n'hésitez pas à aller retweeter ça. Et puis je vous le rappelle aussi, si vous êtes intéressé par Shadow, 10€ de réduction avec mon lien dans la description, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Oui, donc l'autre news super importante, c'est que j'embauche pour la chaîne et j'embauche pour, on va dire, à peu près août-septembre, pour la période, enfin pas pour la période de août-septembre, attention, à partir de septembre, je vais embaucher quelqu'un, donc pour plusieurs mois, hein, donc c'est une vraie proposition d'embauche. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes majeur, si vous avez des compétences en montage vidéo et ou en tournage de vidéo, parce qu'après on peut aussi apprendre ensemble des choses, je peux vous partager mon expérience et tout ça, enfin voilà, tout, c'est pas complètement bloqué. Si vous êtes majeur, si vous êtes sur Toulouse, super important, si vous avez ces compétences-là et que vous êtes intéressé, envoyez votre CV, éventuellement une petite lettre de motivation, vos compétences, ce genre de choses, à l'adresse mail qui est dans la description. Voilà, donc n'hésitez pas. Vraiment, je pense qu'on peut faire des choses très très sympas et ça va être très cool d'embaucher quelqu'un pour la chaîne. Voilà. Également, qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est à peu près tout. Oui, c'est à peu près tout. On va faire le tirage au sort. Donc voilà, vous avez encore, allez, une minute pour aller retweeter mon tweet. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tirage au sort sur le PC, là, ici. Voilà, donc hop, on va aller checker ça. Le peer-to-peer est légal, mais quand il n'y a pas de droit d'auteur sur les fichiers. Exactement. Oui, le peer-to-peer est une technologie qui n'est pas illégale du tout. Qui est Léo? Léo Techmaker, c'est un collègue YouTuber qui fait des vidéos très, très cool sur la high-tech aussi. Voilà, donc hop, je vais aller faire le tweet du petit concours. TW Wrench, où es-tu? Voilà. Le peer-to-peer, c'est juste un envoi de fichiers entre deux PC. Exactement. Le peer-to-peer n'est pas une technologie illégale, hein. bien au contraire. C'est juste que beaucoup d'entreprises et tout ont mis en tête dans la tête des gens que le peer-to-peer était illégal. Mais non, beaucoup de distributions Linux, notamment, se téléchargent en peer-to-peer. Non, c'est une très bonne technologie, vraiment. Allez, hop, je fais le tirage au sort du tweet du concours. Et c'est... Alors malheureusement, il y a deux personnes qui m'ont pas follow, donc ça n'a pas validé leur participation. Et c'est un certain Edith Piaf, voilà, il y a plein de i, qui a gagné le petit mois gratuit de Shadow. Donc je lui envoie un message tout de suite et je lui enverrai le code, hop, très très prochainement, sûrement demain ou après-demain. Hello, tu as gagné le mois gratuit. Voilà. Donc je vais laisser l'onglet ouvert, comme ça je vais pas oublier. Donc Léo va démarrer son stream dans pas longtemps. Je vous remercie d'avoir été présent sur celui-là. Je vous le rappelle, si vous êtes intéressé pour taffer avec moi et que les conditions voilà, vous conviendraient, proposez votre candidature dans la description avec l'adresse mail. Voilà. Donc moi, je vais aller, pour ceux que ça intéresse, je vais aller un petit peu sur mon Discord. Si vous voulez discuter un petit peu avec moi, je vais rester 15-20 minutes pour blablater, tranquillou. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord, discord.gg/guillaume/, en toutes lettres, qui est aussi dans la description. Donc si vous voulez venir discuter, blablater, tranquillou, eh bien venez et je vous laisse. Désolé pour ce stream qui a été un petit peu plus rush qu'à l'accoutumée, mais voilà, hein, j'ai dû décaler, donc on s'adapte comme on peut. Des bisous les gens, merci de votre présence et on se retrouve dimanche prochain à 20h30, notez ça dans vos agendas et dans tout ce que vous voulez, voilà, parce que c'est très cool. Merci pour tous les dons aussi. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.